divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge féminine de France, une émission préparée par Anita Drouet, présentée par Sylvie Prost. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'accueille les invités du jour. Madame Chantal Menton, présidente de la Commission nationale d'histoire et de recherche maçonnique de la Grande Loge féminine de France, accompagnée de Madame Françoise Pêcheur, membre active de cette même commission. Bonjour mesdames. Bonjour Chantal.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Françoise.
Bonjour Sylvie.
Le thème de l'émission a été choisi par la Commission nationale d'histoire et de recherche maçonnique. Alors dites-moi, que signifie ce titre, quand les francs-maçons sont entrés au couvent ?
Eh bien, le couvent, c'est le nom du bâtiment acquis par la Grande Loge féminine de France.
Oui, c'est logique que les francs-maçons des sœurs entrent au couvent. Avant d'aborder les origines, revenons à l'actualité. En septembre, les journées du patrimoine permettent habituellement la visite des bâtiments remarquables comme celui-ci. Alors Chantal, pourquoi le public n'a pas pu visiter nos locaux ?
Les conditions sanitaires actuellement en vigueur n'ont pas permis à la Grande Loge féminine de France d'ouvrir ses bâtiments de Paris, Lyon et Marseille. Aujourd'hui, nous aborderons seulement celui de Paris. Pour avoir un endroit dont elle soit propriétaire, la Grande Loge féminine de France a dû attendre de nombreuses années. Ce bâtiment a connu une succession de propriétaires et d'utilisateurs plus exceptionnels et plus originaux les uns que les autres.
Pouvez-vous nous brosser le portrait de ce bâtiment de la Grande Loge féminine de France ?
La toute jeune obédience créée en 1945 sous le nom de l'Union maçonnique féminine de France a dû élire différents lieux dans Paris pour ses réunions. Sa quête fut longue et empreinte de péripéties. Tout d'abord chez les francs-maçons, les frères, trois adresses successives à Paris. Du 21 octobre 1945 au 14 septembre 1947, 63 rue Froidevaux, 14e arrondissement. Puis, au 46 rue Ramey, 18e arrondissement, hébergement par la loge L'Équité du Grand Orient de France, le temple était mieux que le précédent, mais toujours insatisfaisant. Difficulté de chauffage et d'accessibilité à certaines pièces par un escalier dangereux.
Il ne fallait pas risquer de tomber dans l'escalier. La recherche d'un nouveau local s'imposait.
Le premier souci de Gisèle Fèvre, en tant que grande maîtresse en 1949, a été de trouver des locaux plus appropriés. Voici ses propos.
J'ai rencontré le patriarche, Paul Leclerc, de l'Étoile polaire, qui m'a dit « Ma bonne amie, venez voir, tout est saccagé ». Les frères remarquables de l'Étoile polaire n'ont pas eu l'idée de remettre le local en ordre. Je revenais de me faire rembourser des billets d'avion. J'avais de l'argent sur moi. J'ai proposé 100 000 francs pour commencer les travaux si on nous laissait l'opportunité d'occuper les locaux. Le frère a été époustouflé et il a dit « OK ». Il a réuni le lundi suivant la SCI de l'Étoile polaire et cela s'est fait. 6 mois après, nous étions rue de la Condamine.
C'était le 1er avril 1950, au numéro 71 bis, 17e arrondissement. Et notre sœur, grande maîtresse Edwige Prudhomme, de compléter.
Après plusieurs déménagements de locaux, celui de la rue de la Condamine nous parut très beau, même si certaines pièces étaient cantonnées dans les placards, avec balais, souris et araignées, mais au moins, on n'y descendait plus par une échelle.
Je crois que la Grande Loge féminine de France a passé près d'un quart de siècle rue de la Condamine avant d'entrer au couvent.
En effet, après un vote à l'Assemblée générale annuelle, notre obédience a emménagé au niveau du 101 de la rue de Charonne en septembre 1977, au 4 de la cité du couvent. La recherche fut initiée par notre grande maîtresse Edwige Prudhomme et elle dit:
j'étais encore en fonction quand on nous a signalé l'immeuble de la cité du couvent. C'était une fabrique de meubles, un dépôt de meubles, Livard, et qui a encore un magasin rue de Charonne. Avec Blanche Albert et Yvette Mention, on est allé voir le local. On a trouvé cela trop cher et trop grand et on a laissé tomber pendant 6 mois. C'est Gilberte qui a repris la suite.
Et finalement, c'est notre grande maîtresse, Gilberte Colaneri, qui a mené à bien cette acquisition ?
Oui, tout à fait. Je vais vous livrer sa réaction. Ma grande satisfaction a été d'acheter la cité. Cela aurait pu se faire un an plus tôt, mais je n'ai pas été suivie. La cité a été achetée et Nicole Pinard a fait un plan financier, alors que moi, c'était par intuition. Et là, nous avons eu l'accord. On a fait un emprunt de 100% avec la caution morale du Grand Orient.
Ainsi, pour la première fois, une 30aine d'années après la création de la première obédience féminine indépendante et souveraine, la Grande Loge féminine de France est propriétaire de locaux pour héberger ses loges.
Oui, il s'agit d'un bâtiment chargé d'histoire, ce qui nous permet de détailler de belles anecdotes et aventures.
Racontez-nous la vie de ce bâtiment. Quelle en était sa destination ?
Claude de Bouchavannes, veuve de Monsieur de Vigné, achète le 10 septembre 1647, deux maisons joignantes entourées de jardins à la Croix-Faubin, rue de Charonne, et en fait don à sa sœur religieuse, Emmanuelle Madeleine de Bouchavannes. Des lettres patentes de juillet 1667 portent confirmation de l'établissement de ce couvent dont elle sera la première abbesse. Une lettre du 30 août 1667 mentionne que l'ensemble des bâtiments du couvent du Bon Secours sont en très mauvais état et demandent de grandes réparations. À plusieurs reprises, les religieuses agrandissent leur domaine.
Est-ce que l'on connaît le nom des architectes qui ont rénové ces bâtiments ?
En 1739, les travaux sont menés par l'architecte et contrôleur des bâtiments du roi, Nicolas d'Orbay. Il agrandit l'édifice destiné sans doute à une maison de retraite. Il ne reste actuellement que les bâtiments conçus par Nicolas d'Orbay. Mais les réparations les plus notables sont celles de 1760, confiées à l'architecte Victor Louis. Elles consistent principalement en une rénovation de la chapelle, décorée en 1710 par Louis Brunetti, alors jeune architecte. Est déjà auteur avec Victor Louis de la chapelle des âmes du purgatoire de l'église Sainte-Marguerite rue Saint-Bernard dans le 11e arrondissement de Paris. Victor Louis, 1731-1800, membre de la loge La Française élue écossaise de Bordeaux qui réalise la chapelle et le porche du couvent. On lui doit aussi le grand théâtre de Bordeaux et à la demande de Louis-Philippe d'Orléans, grand maître de la franc-maçonnerie, la réalisation des galeries du Palais Royal de Paris. Cette chapelle du Bon Secours, acquise par Decour avant sa démolition, a été démontée puis reconstruite pour l'exposition de New York en 1939. Les Américains ont été les premiers à découvrir le génie baroque de Louis Brunetti et de ses trompe-l'œil.
J'imagine qu'au fil du temps, les bâtiments ont dû changer de destination.
Au XVIIIe siècle, ce couvent prend comme pensionnaire, involontaire, des femmes enfermées à la demande de leur mari. Il en coûte 600 livres par an, ce qui équivaut à 6800 euros. C'est en quelque sorte le premier bâtiment carcéral du 11e arrondissement, bien avant la Petite Roquette. Daté de 1769, nous retrouvons trace d'un décret de translation de l'abbaye de Malnoux dans le monastère du Bon Secours. Cette abbaye, située hors de Paris, à hauteur de Champs-sur-Marne, posait le problème de l'éloignement de la capitale. Le monastère est riche de dons et les dames du Bon Secours sont propriétaires de plusieurs maisons d'habitation qu'elles louent.
C'était en somme un bon placement pour les femmes riches.
C'est exact. Plusieurs dames de la noblesse se retirent dans ce couvent, lui donnant ainsi de la notoriété. La princesse d'Armagnac en 1763, la duchesse de l'Espart en 1775, la comtesse de la Motte-Audencourt en 1778. La dernière prieure du monastère est Marie-Louise Rottier de Sainte-Claire, qui le restera jusqu'en 1793.
Quelle évolution a connu le couvent du Bon Secours à la fin du XVIIIe siècle ? A-t-il gardé sa vocation religieuse ?
Non ! En 1790, l'ancien couvent, devenu propriété nationale, est alors partagé en plusieurs lots mis en location. Une parcelle est vendue par adjudication les 21 et 27 pluvieuses de l'an 8, soit les 16 et 17 février 1800, à Richard et Lenoir Dufresne pour 1 800 000 francs. Il est établi la première filature de coton de France. Ce qui reste est acquis le 5 Brumaire de l'an 10 par les mêmes Richard et Lenoir. Napoléon Ier, venant visiter la filature en juin 1804, l'un et l'autre nous avons livré une rude guerre à l'industrie anglaise, dit-il au filateur. Mais jusqu'ici, le fabricant était plus heureux que l'empereur. Lenoir meurt en 1806. Richard continue seul. La suppression des droits sur les marchandises anglaises par la Restauration le ruine. Il meurt pauvre en 1839. Le boulevard Richard Lenoir porte leur nom depuis 1859.
Donc, avec Richard et Lenoir, le bâtiment a vocation industrielle. Mais après cela, quels sont les changements intervenus au cours du début du 19e siècle ?
La chapelle a servi de grand salon à Richard et Lenoir jusqu'en 1830, puis est devenue une école des arts industriels et du commerce en 1832. Un hospice y est installé en 1846. Henriette Sharp, épouse séparée de Ledru Rollin, lègue le 97 rue Charonne à la ville de Paris le 1er avril 1889. Plus tard, elle sert d'oratoire protestant et désaffectée devient un atelier de menuiserie. En 1893, on notera une école maternelle derrière la chapelle et en 1894, l'installation de forges. Puis, l'impasse du Bon Secours sera construite, privant l'ancien couvent de toute l'étendue des terrains situés au nord de la rue de Charonne. Le 28 décembre 1897, une vente est effectuée par adjudication des 97, 99 et 101 de la rue de Charonne, dit ancien hôtel Richard Lenoir et ancien couvent du Bon Secours. La mise à prix est de 65 francs le mètre superficiel, soit 428 327 francs, pour 6 589 mètres carrés, avec entrée en jouissance le 1er janvier 1898.
Manufacture, école, hospice, atelier de menuiserie, forge, c'est tout le 19e siècle qui défile au travers d'un seul bâtiment. Les entreprises, l'artisanat se sont installés du côté de la cité du couvent. Qu'en est-il advenu jusqu'à aujourd'hui ?
1926 voit le percement de l'espace de la cité du couvent. Il sacrifie définitivement l'ancienne ordonnance de la grande cour et de la porte cochère à double alignement de colonnes, œuvre de Victor Louis. En 1941, dans la cité du couvent, dans les lieux occupés aujourd'hui par la Grande Loge féminine de France, on trouve Casier, fabricant d'articles en fil de fer, et Roussel, un tapissier. En 1955, au même endroit, se trouvent au numéro 4 les établissements Pulsor produits chimiques qui disparaissent en 1965. Avant la démolition autorisée, en date du 2 octobre 1969, la commission du Vieux-Paris essaye en vain d'obtenir du maire du 11e arrondissement, M. Jean Vaugelade, le classement du couvent du Bon Secours, qui se trouve être le seul bâtiment conventuel du 18e siècle encore intact à Paris. Deux propriétaires se partagent le 99 de la rue de Charonne, et ils vendent à la société immobilière Choiseul le vestige de notre passé qui ne trouve pas grâce à leurs yeux. En 1971, il ne reste qu'un marchand dans la cité. Les autres sont inscrits au 101 rue de Charonne. On y trouve 4 ébénistes, 2 vernisseurs, un menuisier, un monteur sur bronze et un fabricant de sièges, Livard. C'est ce dernier qui vendra les locaux actuels à la Grande Loge féminine de France en 1976.
Vous nous avez conté l'histoire de ce lieu, commencé en 1647 pour une communauté de femmes, qui revient, du moins partiellement, après plus de 3 siècles, à une autre communauté de femmes, celle des francs-maçons de la Grande Loge féminine de France. C'est assez impressionnant, en effet, de constater par l'exemple que l'histoire se répète.
Peut-être sommes-nous héritières quelque part de ces dames du faubourg que Jean Divot a tellement bien décrit en 1987. Pour la petite histoire, l'abbesse de Saint-Antoine des Champs, la dame du faubourg, avait le droit de haute, moyenne et basse justice sur une région qui comprenait tout le 12e arrondissement, une partie du 11e et du 20e. C'était, avec l'abbaye de Montmartre, le plus riche couvent de femmes de la région parisienne, d'où le titre de notre émission « Quand les francs-maçons sont entrés au couvent ». Il y avait 14 couvents dans le quartier. À partir de 1719, exista une petite foire qui commençait à la fin du carême, le samedi saint. C'était la foire au pain d'épices, qui déborda l'enclos des murs de l'abbaye et devint la foire du trône qui subsiste encore aujourd'hui sur la pelouse de Rudy.
Nos auditeurs doivent se demander si le bâtiment de la Grande Loge Féminine de France est visitable.
Bien sûr. Plusieurs fois par an, les portes de la cité du couvent sont ouvertes. Au premier trimestre, avec pour thème « Temple ouvert », et en septembre, lors des Journées du patrimoine. L'histoire du bâtiment est présentée aux visiteurs, ainsi que les collections de la Grande Loge Féminine de France. Tout au long du parcours, des informations leur sont données. De plus, des visites privées via des organismes spécialisés peuvent être organisées, notamment pour découvrir nos collections qui s'enrichissent de jour en jour. Le site de la Grande Loge Féminine de France, glff.org, contenant informations et contacts, est régulièrement mis à jour.
Mesdames, je vous remercie de cette promenade dans le cœur historique du 11e arrondissement de Paris, à travers les tribulations de ce couvent, aujourd'hui dédié aux sœurs de la Grande Loge Féminine de France. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Peyré Legras, à la technique Bernard Laniel, avec la collaboration de Claire Poinsignon. Nous vous disons à bientôt, le 5 décembre, pour la prochaine émission de la Grande Loge Féminine de France.